quoi ressemble la vie au fin fond des océans, là où il n'y a ni lumière ni oxygène? Et si la recherche fondamentale sur les espèces maritimes des profondeurs permettait demain de trouver de nouveaux traitements pour les maladies humaines de la surface? Cette semaine, l'Institut Pasteur de Lille vous immerge à 20 000 lieues sous les mers avec la chercheuse Aurélie Tazimski. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Aurélie, tu es enseignante-chercheure à l'Université de Lille, professeure en biologie des organismes. Tu travailles sur de la recherche fondamentale puisque tu t'intéresses aux espèces qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très peu dans les fonds marins pour comprendre comment fonctionne leur immunité. Concrètement, en quoi consiste ton métier de manière générale ?
Alors mon métier, j'enseigne à l'université puisque je suis enseignant-chercheur. Donc j'enseigne beaucoup la biologie et puis des organismes et puis un petit peu l'immunologie.
Oui.
Et ma recherche, donc je l'effectue ici à l'Institut Pasteur de Lille, au CIL, au Centre d'infection et d'immunité de Lille, où je travaille en fait à essayer de comprendre comment est-ce que l'immunité va permettre à des organismes qui sont hors normes, donc qui vivent dans des habitats extrêmes, de vivre. Alors pourquoi l'immunité ? Parce que c'est l'association donc avec des bactéries de ces animaux qui va leur permettre de vivre dans des habitats extrêmes.
Alors donc pour bien recontextualiser, on avait parlé il y a quelques épisodes de l'antibiorésistance, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bactéries qui sont résistantes aux traitements classiques qu'on connaît. Et donc toi, ton métier, c'est aussi de se dire, tiens, allons voir ce qu'on connaît moins.
Oui, exactement. En fait, c'est de montrer également qu'il ne faut pas oublier d'étudier la biodiversité, parce qu'actuellement, il y a des gros soucis. Hein, on est en pleine période où on est en grosse période d'extinction de beaucoup d'espèces. Les grands fonds sont menacés par l'exploitation minière, et c'est de montrer que en faisant ça, en faisant éteindre des espèces, ben, on peut également se couper des opportunités de trouver des solutions.
Des traitements,
voilà. Donc, effectivement, parmi les molécules qu'on a trouvées donc chez les animaux qui vivent dans les milieux profonds et sur les cheminées hydrothermales au niveau des dorsales, on a trouvé des antibiotiques qui étaient potentiellement intéressants pour des applications en thérapie humaine.
Quel type d'application ?
Alors notamment, ça c'est lié donc au contexte du CIL qui travaille beaucoup sur les maladies pulmonaires, donc on s'intéresse aux infections qui causent des maladies pulmonaires.
D'accord, très bien. Il y a quelque chose qui est super intéressant dans ton métier, c'est que régulièrement, c'est pas non plus tous les mois, il t'arrive de plonger au fin fond de la mer, vraiment très profond, à quelques milliers de mètres, c'est ça ?
Ah oui, 3000, 4000 mètres de profondeur.
Pour étudier les espèces marines, tu m'as dit quand on a préparé cet épisode, moi j'aime bien les petites bêtes. Est-ce que tu peux en parler ?
Des plongées ou des petites bêtes ?
Les deux justement, parce que je trouve que ça va ensemble.
Oui, c'est un environnement qui est extrêmement fascinant. On a découvert en fait l'existence d'oasis dans les profondeurs marines assez récemment, puisque pendant très longtemps, on pensait qu'il n'y avait pas du tout de vie parce qu'il n'y avait pas du tout de lumière.
Oui.
C'est faux. On a énormément d'organismes qui vivent dans ces profondeurs. Et c'est des organismes qui sont complètement différents de ce qu'on peut voir à la surface, bien entendu, puisqu'ils vivent avec des pressions jusqu'à 300 bars, des températures qui vont dépasser les 100 degrés parfois.
Oui,
et en absence de lumière, surtout.
Sans lumière et sans oxygène ?
Et sans oxygène, oui.
Comment on explique qu'il y ait de la vie au fin fond de la mer, sans lumière, sans oxygène ?
Mais c'est grâce aux bactéries. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'immunité de nos animaux, puisque les interactions entre bactéries et animaux vont impliquer le système immunitaire. C'est ce système immunitaire qui va contrôler les associations.
Ouais.
Et donc ces bactéries sont elles qui vont fournir la source de carbone aux animaux. Voilà. C'est pas de la photosynthèse comme on peut avoir en surface, mais c'est de la chimiosynthèse.
D'accord, donc il fonctionne avec de la chimie.
Oui, il y a tout un environnement chimique qui va être très particulier dans ces habitats-là. Et les animaux vont être capables, par des réactions chimiques multiples, donc de produire une source de carbone, donc une source de nourriture.
Qui les fait survivre.
Qui les fait vivre et qui fait vivre tout l'environnement.
Ça nous amène à un sujet qui est super intéressant. Quand on a préparé pareil cet épisode, tu m'as dit, on connaît au fond beaucoup moins bien le fond des mers terrestres que l'espace.
Oui, même que la Lune, en fait.
Même que la Lune.
La cartographie, en fait, de la Lune est beaucoup plus précise que celle des fonds marins. Et il y a eu plus de personnes qui ont exploré l'espace que le fond de la mer, pour des raisons techniques.
Et donc, tu fais partie, toi, des gens qui explorent les fonds marins. Est-ce que tu peux nous parler des espèces sur lesquelles tu travailles ?
Alors, je m'intéresse plus particulièrement à deux espèces. L'espèce sur laquelle, d'ailleurs, j'avais commencé à travailler, c'est Alvinella pompeiana.
D'accord.
Qu'on appelle également le ver de Pompéi. Oui. Parce que c'est un ver qui donne l'impression d'être recouvert de cendres comme Pompéi. Et ce ver, il a la particularité de vivre sur la paroi la plus chaude des cheminées hydrothermales profondes. Donc, c'est extraordinaire pour un animal qui fait à peu près 10 cm parce qu'il est capable de supporter des températures jusqu'à 102 degrés. Ce qui est énorme pour un animal.
Oui, c'est colossal.
Pour les bactéries, c'est plus connu. Mais pour les animaux, c'est extraordinaire. Son métabolisme fonctionne bien, y compris à ces températures-là.
Ça, c'est intéressant aussi pour nous, pour comprendre demain comment fonctionnent les animaux qui vivent dans des conditions extrêmes. Là, en l'occurrence, est-ce qu'on est capable d'expliquer comment la vie est possible à 102 degrés sous l'eau ?
Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est grâce à ces bactéries, à ces associations avec ces bactéries, ça, ouais, c'est sûr, c'est la source de carbone. Après, on a beaucoup de choses à explorer avec les moyens dont on dispose à l'heure actuelle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très peu exploré parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et encore en France, on a cette chance d'avoir les moyens à la mer. On a notamment donc différents robots, ouais, et puis on a un sous-marin qui nous permet d'aller à 6000 mètres de profondeur.
Super profond.
Ce qui est très profond, hein. Il n'y a que 5 sous-marins dans le monde qui vont à ces profondeurs-là.
Donc toi, tu as été plusieurs fois dans un de ces sous-marins.
Oui.
Quel souvenir t'en gardes ? Et puis, comment ça se passe, la vie à bord d'un sous-marin ? On a entendu parler il y a quelques mois d'un sous-marin, mais c'était dans des conditions moins positives. Mais là, la recherche sous-marine, comment ça se passe ?
Oui, alors c'est pas du tout le même type de sous-marin que celui qui a malheureusement fait la une pour des raisons tristes. Hein.
Oui.
Voilà, c'est vraiment des sous-marins de recherche et non pas touristiques. Donc la vie à bord, mais en fait, on plonge à peu près 6-7 heures. Hein. Ce sont des plongées qui vont être quotidiennes lors d'une mission. C'est-à-dire,
d'accord,
qu'on part sur un gros bateau sur lequel est embarqué le sous-marin, qui s'appelle le Nautil, et quotidiennement, enfin quand les conditions de mer sont favorables, il va y avoir des plongées. Donc à bord du sous-marin, en fait, on se retrouve dans une capsule qui fait à peu près 2 mètres de diamètre, dans lequel on va avoir 3 personnes, un pilote, un copilote et le scientifique.
Et donc vous êtes très serré.
Oui, parce que 2 mètres de diamètre, c'est rien du tout. On est à 3, on est allongé pendant la plongée. On a la tête qui est collée à un tout petit hublot.
Oui.
Puis voilà, donc on va explorer les fonds et puis on fait les collectes. Donc le scientifique, il a une liste d'échantillons à faire. Puis voilà, on leur dit, voilà, faut aller chercher des crevettes, faut aller chercher des vers, faut aller chercher ça. Faut faire des prélèvements pour la géochimie, tout,
oui,
tout ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des biologistes qui sont à bord de ce genre de bateau.
Et donc toi, quand tu vas t'intéresser aux vers dont tu parlais, tu les étudies au fin fond de la mer, parce que si tu les remontes à la surface, il y a un risque peut-être de dépressurisation, des choses comme ça.
Enfin, en général, non, on les remonte, on peut pas travailler.
D'accord.
Voilà, tout ce qui est fait dans les fonds, ce sont les prélèvements de fluides pour faire les analyses chimiques des fluides.
D'accord.
Et ensuite, le sous-marin ou les robots sont équipés de bras qui vont pouvoir faire les prélèvements. Les animaux sont ensuite remontés à la surface. Alors, ce qui est surprenant, c'est que même si la remontée est forcément hyper stressante pour les animaux, hein. Enfin, la plupart des animaux vont mourir, mais pas tous, en fait. Ils sont quand même encore manipulables dans les heures qui suivent la remontée. Donc, dès qu'ils sont remontés, on les met en chambre froide. Bien entendu, on est dans des conditions, on fait très attention aux contaminations bactériologiques.
Hein,
on protège les échantillons et on se protège aussi. Et puis, là, commence à bord tout de suite les dissections, les prélèvements liquides, voilà.
Tu dis on se protège aussi parce que t'es pas à l'abri d'avoir un virus inconnu qui surgisse du fin fond de la mer et d'être contaminé, c'est ça ?
Bah pourquoi pas ?
Ah ouais.
Non, on pense pas trop à ça, on pense plus il y a beaucoup de sulfure, il y a beaucoup il y a des métaux lourds aussi,
oui,
hein, dans ces zones-là, voilà. Non, on n'a jamais trop pensé à ça, même si ça pourrait faire
un bon film.
Un bon film de science-fiction, hein.
Dernière question peut-être sur ce sujet-là aussi. Tu m'as dit quand tu plonges, tu dois faire attention à ce que la mer soit pas trop agitée. Qu'est-ce qu'on regarde en fait là-dessus ?
En fait, il faut que la mer soit pas agitée parce que le problème, c'est que... Alors, le sous-marin, il va être mis à l'eau avec un portique.
Oui.
Donc déjà, la mise à l'eau, il faut faire attention parce que les plongeurs doivent décrocher le sous-marin du portique. Donc, s'il y a trop d'agitation, ça sera trop dangereux pour eux.
D'accord.
Et il faut pas que le sous-marin
soit emmené au large.
Oui, enfin. Ou alors, ça non, c'est pas trop grave. Mais surtout qu'il aille culbuter le bateau.
Ah oui, oui, oui.
Et puis ensuite, il faut qu'au retour, c'est la récupération en fait, hein, qui fait que voilà, il faut quand même pouvoir récupérer les gens parce qu'il y a la quantité d'oxygène est quand même limitée aussi.
Ouais, complètement.
À l'intérieur du sous-marin.
Et donc toi, tu pars 20 jours quand c'est comme ça?
Oh, les missions, c'est minimum 20 jours. Là, on a fait une demande d'équipement à la mer pour refaire une mission. Et là, ce sera une mission de 45 jours. Oui, j'ai déjà fait des missions de 45 jours, oui.
C'est génial. Et est-ce qu'on est angoissé à bord d'un sous-marin? Faut pas être claustro.
Non. On est tellement dans l'excitation que on n'y pense absolument pas. On se rend compte que c'est une chance unique, quoi. Enfin,
c'est trop bien. Ouais. Alors Aurélie, si on revient un peu sur ton parcours, comment t'en es arrivée aujourd'hui à travailler sur des espèces qu'on connaît très peu?
Alors, je pense que c'est lié au fait que depuis que je suis petite, j'aime bien regarder les petites bêtes. Ça m'a toujours intéressée. Et donc, j'ai jamais été, par exemple, attirée par la médecine.
Oui.
J'ai toujours été beaucoup plus attirée à voir comment fonctionnaient des petits animaux. Alors, mon cursus, j'ai fait, comme j'aimais la biologie, j'ai fait de la biologie, c'était tout à fait naturel pour moi.
D'accord.
Et puis, j'ai une offre de thèse qui était sur la sangsue. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout un organisme qui peut intéresser. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une bébête un peu originale. Et donc, j'ai fait ma thèse sur la régénération du système nerveux de cet animal parce que lorsque son système nerveux est lésé,
ouais,
eh bien, l'animal est capable de le régénérer intégralement, y compris d'un point de vue fonctionnel.
Donc, quand une sangsue est coupée en deux, je prends le pire cas.
Voilà, ça régénère. C'est un peu comme si on nous coupait la moelle épinière entièrement et puis que notre moelle épinière, en fait, était capable de se régénérer et qu'on pouvait retrouver des capacités de marche tout à fait normales. Donc, je trouvais un modèle très intéressant. Et à l'époque, déjà, je m'intéressais à l'immunité parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, l'immunité, parce que ça englobe beaucoup de disciplines. Et puis, et voilà, donc on avait pu montrer que le système immunitaire pouvait contribuer à cette régénération du système nerveux. Et notamment par la production d'antibiotiques, voilà, qui avait une double fonction. Et ces antibiotiques, on les appelle les peptides antimicrobiens. Et je travaille toujours sur des peptides antimicrobiens. Ça, c'est toujours, je crois que c'est le fil conducteur de toute ma recherche.
De toute ta carrière de recherche. Combien de temps ça vit une sangsue?
Alors, les sangsues médicinales sur lesquelles je travaillais, donc ça vit 20 ans.
C'est colossal.
Ben
quand
oui,
on imagine ces petites bêtes, on se dit, bon, ça tient quelques jours. Mais c'est beaucoup plus...
C'est plus qu'une souris.
Oui, bah, beaucoup plus.
Et pourtant, elles n'ont pas... D'un point de vue immunitaire, c'est très intéressant parce qu'elles vivent dans des conditions très particulières. Elles vont ponctionner le sang des vertébrés, y compris des vertébrés qui ne sont pas forcément en bonne santé. Et elles n'ont pas d'anticorps. Mmh. Et pourtant, ça ne les empêche pas de très bien vivre.
Très bien survivre et s'adapter. Mmh. Et donc, ça, c'était donc, quand tu faisais ta thèse sur les sangsues.
Oui. Mmh.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es partie aux États-Unis.
Oui.
Et là, tu t'es dit, tiens, je vais étudier un autre animal plus commun.
Oui, plus commun parce que c'est l'homme.
Ouais.
En fait, oui. Alors, j'avais quand même un fil conducteur, les peptides antimicrobiens, toujours, hein, les familles. Mais à l'époque, on les étudiait également, et c'est toujours le cas d'ailleurs chez l'homme. Et j'avais trouvé un postdoctorat dans un bon laboratoire, donc qui travaillait sur les peptides antimicrobiens aussi, mais dans la maladie de Crohn chez l'homme.
D'accord.
Donc là, j'étais dans une clinique, et je dois avouer que c'est là où j'ai réalisé que le modèle humain, à proprement parler, moi, m'intéressait moins parce que. Alors bien entendu, les retombées, même quand on parle aux gens, on dit qu'on travaille sur la maladie de Crohn.
Bien sûr.
Dans un dîner, les gens, ça les interpelle beaucoup plus. Mais moi, ça m'intéressait plus de travailler sur les petites bêtes, en fait. J'avais l'impression d'être plus encore un chercheur parce qu'on part du quasiment rien, en fait. Même les outils, il faut les mettre au point parce qu'il n'y a pas grand-chose comme outil non plus, hein, pour étudier des petites bêtes un peu exotiques.
Il faut tout inventer un peu comme si tu étais
oui,
une aventurière.
Voilà, c'est dit, oui.
Après avoir étudié l'homme dans le cadre de la maladie de Crohn, qu'est-ce que tu as fait?
En fait, il y a eu un poste de maître de conférence qui s'est ouvert dans le laboratoire où j'avais fait ma thèse. Et donc, je suis revenue en France. Et donc, là, j'ai continué mes travaux sur la sangsue.
Ouais.
Et puis, toujours sur les peptides antimicrobiens, sur cette immunité. Enfin, on a montré d'autres événements. Et puis, entre-temps, et là, ça a été vraiment un tourment pour moi, j'ai rencontré dans un congrès une dame qui s'appelle Françoise Gayle, qui fait partie des premières chercheuses françaises à avoir découvert les cheminées hydrothermales. Elle a participé aux toutes premières missions. Et elle m'a demandé si j'étais intéressée pour étudier donc, d'autres vers, hein, parce que les sangsues ouais, sont des vers, mais cette fois-ci des vers extrêmes, et de rechercher des peptides antimicrobiens chez cet animal-là.
Pile poil ton sujet de recherche.
Voilà, je me suis dit, oh, c'est super. Et on a été, enfin, je pense que j'ai été chanceuse dans le sens où j'ai tout de suite trouvé donc, une molécule, un peptide antimicrobien qui était nouveau. Donc, je suis allée la voir au bout de 2 mois. Ça avait très bien marché. Quelquefois, ça marche pas. On cherche une molécule. C'est quand on part de rien et qu'on cherche à identifier, ou quelquefois, on a quelque chose d'intéressant, on n'arrive pas à séparer les molécules entre elles. Donc, à la fin, si la molécule n'est pas pure, on peut pas vraiment la caractériser. Et là, en l'occurrence, ça s'était très bien passé. Et donc, je suis retournée voir cette dame qui était à Paris. Et je lui dis, voilà, on a une nouvelle molécule. Faut qu'on lui donne un nom. Je pense que c'est potentiellement brevetable. Et voilà. Et elle était tellement contente, elle m'a permis de faire ma toute première mission océanographique.
Quel est le nom de cette molécule ?
L'alvinellacine. C'est pas très original, du fait de Alvinella pompeiana. Voilà.
Donc qui était le ver de Pompéi dont tu parlais au début, justement. Ça
exactement, tout début.
Aurélie, je voudrais conclure cet épisode avec toi en parlant de la recherche fondamentale, parce que tout au long de cette série d'épisodes de podcast, on a parlé beaucoup de la recherche très appliquée, on a parlé de la recherche sur des maladies qui touchent l'homme, l'Alzheimer, les différents cancers, enfin des choses comme ça. Toi, tu étudies quelque chose de très différent, tu étudies des animaux avec des applications thérapeutiques qui sont pas directes, c'est pas du tout ton cœur de métier. Pourquoi c'est aussi important de faire de la recherche fondamentale ?
Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de recherche appliquée sans recherche fondamentale. C'est ce qui apporte la connaissance, la recherche fondamentale. Et même si dans l'immédiat, on n'a pas forcément une application, il se peut qu'en découvrant des nouveaux mécanismes, à un moment, on ait une nouvelle application. Et ça peut être divers. Par exemple, la PCR, si personne n'avait étudié les organismes extrémophiles, on n'aurait pas les enzymes pour faire la PCR. Hein, c'est quand même...
PCR, des tests PCR.
Les polymérases, voilà, oui. L'enzyme qu'on utilise pour faire la PCR vient d'organismes extrémophiles. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je pense que c'est toujours important de décrypter des nouveaux mécanismes, de ne pas s'arrêter à ce qu'on sait déjà pour essayer de absolument trouver une application.
Et donc, ça ouvre aussi le champ de la créativité des chercheurs, la recherche plus appliquée, parce que ça montre aussi tout un champ immunitaire possible.
Oui, ça, c'est vraiment complémentaire. C'est comme dans un magasin, ça augmente le rayonnage. Et moi, c'est un petit peu tombé en désuétude en France. Hein. On est moins sur la recherche fondamentale, alors que c'est quand même extrêmement important. Et je pense qu'un des très bels exemples, c'est l'exemple de Emarina, qui est une société là, qui est en train d'exploser en France.
Qui est en Bretagne ?
Qui est en Bretagne, et si ce monsieur, qui était un chercheur CNRS, il a abandonné son poste, enfin il a quitté son poste au CNRS pour monter sa société, si c'était pas intéressé à ce petit ver qui vit sur la côte, qui est l'arénicole, celui qu'on utilise pour pêcher, il se posait la question, mais comment il fait pour quand la marée est basse, pour respirer ? Et c'est grâce à une hémoglobine qui est extraordinaire. Et s'il n'avait pas essayé de comprendre ça, actuellement, il n'aurait pas pu développer ce système d'utiliser le sang de ver pour le transport des greffes.
Parfois,
quelque chose qui fonctionne très très bien.
Une question, on va dire, de curieux, peut derrière mener à une énorme découverte scientifique qui, là, en l'occurrence, sert les greffes humaines ?
Oui.
C'est incroyable.
Oui, je trouve ça... Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle du biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant. Donc, mais il faut prendre le temps de l'observer, le vivant. Il y a plein d'exemples comme ça, de mimétisme, où on observe comment, même pour les avions, finalement, je sors de la biologie, mais on a étudié le vol des oiseaux, ou la forme des ailes, et ça donne une inspiration. Et ça, je pense que c'est pareil aussi pour la biologie, il faut regarder un peu, parce que finalement, rien ne pourra remplacer des millions d'années d'évolution. Les organismes dont je vous parle, les vers, ça fait 400 millions d'années qu'ils sont sur Terre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de leur capacité d'adaptation à tout type de conditions.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, qui t'ont étonné dans ton parcours de recherche ?
En fait, ce que je retiens, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, il faut pas hésiter en fait, faut pas se mettre de barrières, parce que jamais j'aurais imaginé être sur un bateau océanographique, et la première fois que j'y suis allée, que j'ai embarqué, je pensais que ça se répéterait jamais. Je m'étais dit, bon sang, c'est une chance. D'ailleurs, je n'allais pas me coucher, je dormais pas, parce que il faut vraiment que je
profite de chaque instant,
de tout, de chaque chercheur à bord. J'allais même couper les roches, parce qu'il y avait des géologues à bord. Donc même ça, j'allais les aider pour tout. Comme ça, j'apprenais sur les serpentines. C'était à chaque fois qu'il y a des plongées, il y a des nouvelles espèces qui sont découvertes. Donc ça, je pense que c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée, et c'était parce qu'à un moment, j'ai croisé une personne, je lui ai pas dit non, et surtout, je me suis mise au travail tout de suite. Et ça, comme quoi le travail paye. Ce moment où j'ai pris sur mes grandes vacances, pour refaire la purification, ça m'a ouvert plein de portes. À ce moment-là, je le savais pas. Mais j'ai eu ce pressentiment que c'était hyper intéressant. Ne pas se dire, bah là, voilà, je suis sur un sujet, toute ma vie, je vais travailler dans le même laboratoire, ou voilà, si on a envie de faire d'autres choses, ben, on a quand même cette chance en France d'avoir assez rapidement des postes permanents. Ce qui nous permet également quelquefois d'aller dans des zones qui sont inexplorées et pas forcément, après ça dépend du goût de chacun, de rester toute sa vie sur le même sujet.
Et alors toi, s'il y avait un autre sujet qui t'intéresserait de recherche demain, on imagine, voilà, on se projette un peu, dans 5 ans, dans 10 ans, si tu devais ouvrir une nouvelle porte inconnue, ce serait laquelle ?
Alors, mais ça, je pense que je le ferai jamais parce que ce serait vraiment très loin, mais ce qui m'a toujours fascinée, c'est l'apparition de la complexification du vivant.
Pourquoi on est passé d'organismes qui s'adaptent partout à des organismes, à des animaux comme l'homme, comme le chien, comme...
à des organismes. Comment on est passé d'une bactérie aux premiers organismes qui sont constitués de tissus, donc de plusieurs cellules? Quel a été l'intérêt évolutif de faire ça? Il y a quelques laboratoires qui travaillent là-dessus et moi je trouve que c'est une question qui est vraiment intéressante parce que... d'un point de vue fondamental, c'est les origines, en tout cas, des organismes complexes. Parce que finalement, les unicellulaires, ils se débrouillent très très bien. Voilà, il n'y a pas eu d'extinction majeure d'unicellulaires.
Non, c'est vrai.
Par contre, les gros organismes, c'est beaucoup plus complexe. Donc,
et aujourd'hui, on n'a pas la réponse à ces questions.
Il y a des hypothèses. Alors, c'est pas mon sujet de recherche, mais je sais que c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Ce serait peut-être contre la prédation, le fait d'être plus gros. Donc, peut-être qu'au départ, c'était des cellules qui se sont assemblées pour faire finalement quelque chose de plus compact. Et puis, au fur et à mesure, on aurait eu les premières éponges. Voilà.
Mais au début, elles n'avaient pas de prédateurs, s'il n'y avait que des cellules de la même
taille. Si, parce qu'il y a une énorme compétition entre les unicellulaires.
Ah oui ?
Oui, en fait, c'est la base des antibiotiques. Hein. C'est parce que ils se tuent entre eux, ils se mangent entre eux. Les antibiotiques, à la base, les bactéries les produisent pour se défendre vis-à-vis des autres bactéries.
Oui.
Il y avait déjà aussi des unicellulaires eucaryotes.
Oui.
Voilà, qui, elles, phagocytaient. Hein. L'origine de la phagocytose, c'est de manger.
Ah, c'est vrai.
C'est pas forcément... après, forcément, c'est devenu immunitaire, mais à la base, c'est surtout manger. Donc, c'était des organismes qui mangeaient d'autres organismes. C'est quelque chose qui m'aurait intéressé, ou la paléontologie.
Aussi, ah oui.
J'aurais bien aimé, voilà.
Donc, ce qui t'intéresse le plus, pour résumer, c'est remonter les fils de l'histoire, comprendre les origines du monde et aussi aller explorer ce qu'on connaît le moins.
Oui. Oui, c'est ce qui m'intéresse le plus. Même si là, ça m'intéresse beaucoup aussi. On a cette opportunité, en étant à l'Institut Pasteur, d'aller voir quelle est la fonction de nos molécules et si on peut les utiliser. Ça m'intéresse beaucoup aussi parce que finalement, ça fait une histoire complète. Et si on peut déboucher sur des candidats médicaments, ça m'intéresse également beaucoup. Hein. C'est pas l'apparition de la vie, tout ça, je trouve ça extraordinairement fascinant. Oui.
Complètement. Super. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.